Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la dernière lecture du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre. Il est convenu que les enfants du logis d'Anne seront répartis entre les trois écoles environnantes, celles de Jouques, de Pérolles et de Saint-Paul-les-Durances. Mais uniquement à partir du CM1. Au sein du camp sont mises en place une classe de maternelle et une classe de rattrapage qui réclament un système d'éducation particulier. Comment apprendre, quoi que ce soit, à des enfants dont on ignore tout? On doute de leurs facultés intellectuelles. On doute de leur capacité d'adaptation. On doute de leur honnêteté. Les instituteurs paraissent moins enseignés que mener une expérience de première approche avec une espèce jusqu'ici inconnue d'extraterrestre. Les cours débutent comme à tâtons. Je suis Hamid, je viens de Kabylie. Je suis Mokhtar, je viens de Kabylie. Je suis Kader, je viens de l'Algérie française. Non, non, Kader, non. L'interrompt nerveusement l'instituteur. Ça n'existe plus, l'Algérie française. Un moment de perplexité rend les enfants muets. La phrase fait écho à certaines déclarations de leurs parents. Ne plus penser à l'Algérie. Oublier l'Algérie. Et pour eux, c'est comme si le pays avait été physiquement effacé. Comment fait-on disparaître un pays ? Quand j'étais au collège, raconte Hamid, bien plus tard, peut-être 50 ans après ce moment et quelques années aussi après le voyage de Naïma, j'ai accroché une map monde au mur de la chambre pour réviser. Un soir, je suis rentré et l'Algérie avait été brûlée d'une braise de cigarette. Il restait un trou rond. Qui avait fait ça ? Demande Naïma. Ton grand-père, je suppose. Très vite, l'instituteur en charge de la classe de rattrapage renonce à apprendre aux élèves à lire et à écrire. C'est trop compliqué. Les écartages sont considérables. Les échanges se passent dans trois langues brisées, tronçons sanglants, arabe, kabyle, français. Comment espérer tirer des résultats d'une méthode qui a été élaborée pour éduquer des Français, déjà bercés par la langue depuis leur enfance? Ils préfèrent leur faire dessiner des fleurs. Ils préfèrent leur apprendre le rugby. On ne peut pas en vouloir à cet homme, dira Hamid à Naïma. Il nous a rendus heureux. Ce n'était pas gagné. À chaque bruit d'avion, les petits se pissaient dessus et nous, les plus grands, on se jetait au sol. À chaque bruit de pas, on guettait la porte et on n'écoutait plus. Ce n'était pas rien de nous faire sourire, de nous réapprendre à jouer. Mais quand même, ce n'était pas l'école, ou en tout cas, ce n'était pas celle des Français. Or, c'est ce dont Hamid rêve depuis qu'il est arrivé dans ce pays, se mêler aux Français. Il n'a pour le moment aucune revendication d'égalité ou de justice. Il voudrait seulement revoir Annie. Et il sait que ce ne sera pas sur les bancs de cette classe au rabais. Les rires de la fillette lui manquent. Il pense que s'il pouvait les entendre à nouveau, alors il réintégrerait l'enfance. La France qu'il a aperçue depuis son arrivée paraît si petite qu'il se rassure en se disant qu'il la croisera bientôt. De l'autre côté de la mer, à Palestro, qui a perdu son nom, l'épicerie et l'appartement qui la coiffe, précipitamment abandonnés par la famille de Claude, ont été pillés plusieurs fois. Les derniers venus ont emporté jusqu'au robinet. Après des mois de poussière et de grincement, la boutique est finalement attribuée au jeune Youssef Tadjer, combattant de la Révolution. Le sourire de celui-ci, quand il en passe la porte, dévoile ses dents trop écartées, ses dents de gamin de la crête, de petit vendeur ambulant que l'indépendance vient de transformer en commerçant respectable. Du pied, il envoie une boîte de conserve vide roulée sous le comptoir et hurle silencieusement, bras en l'air, bouche énorme, « Gaul !» Comme tous les hommes du Logidan, Ali travaille pour l'Office national des forêts. Le logement et le poste sont arrivés couplés, siamois. Personne ne leur a demandé de réinventer ou de rêver leur vie française. Ils vivront dans les arbres, ils travailleront dans les arbres. Quand Ali repense au hameau des années plus tard, des gros plans d'écorce se présentent à son esprit, des îles brunes et rouges, séparées par des crevasses et des craquelures profondes, dans lesquelles se cache toute une vie grouillante, reproduction miniature d'une tectonique des plaques dont il ne connaît rien. Il coupe les troncs qui pèlent comme des peaux brûlées, dégage des allées, débroussaille les bords de la route. Le petit groupe de travailleurs croise rarement des locaux lors de leur sortie. C'est un emploi idéal pour éviter que la présence des harkis ne se fasse trop pesante dans les villages voisins. Ils aménagent discrètement les bois pour éviter que les incendies ne s'y propagent. Un jour, alors qu'Ali est occupé à tronçonner des arbres avec trois hommes du camp, ils sont pris dans une pluie de chenilles processionnaires au moment où le pin s'effondre. Éventrés par l'affolement des branches, les nids filandreux vomissent sur eux des lépidoptères bruns et noirs, minuscules monstres velus dont les soies leur mettent le corps en feu et les yeux au supplice. Quelques heures plus tard, leurs bras, gorge, poitrine, ventre, visage sont couverts de plaques rouges. Les poils urticants naviguent dans les rigoles de sueur des travailleurs et se dispersent sur tout le corps. Les quatre hommes se grattent et jurent, leurs paupières gonflent et dans la fente de l'œil resté ouvert, un larmoiement permanent leur trouble la vue. Quand ils rentrent au Logidan, les femmes regardent avec étonnement avancer ce groupe d'hommes rouges et enflés, agités de mouvements frénétiques. Bachir, le plus vieux de tous, dit en grimaçant « On est tombé dans une embuscade. On n'a rien pu faire, ils étaient trop nombreux. » Ils éclatent de rire. Et Ali s'étonne, alors même qu'il rit lui aussi, que cette plaisanterie guerrière puisse les amuser. Il sent bien qu'il n'est pas le seul à être surpris. Les hommes et les femmes présents rient plus longtemps et plus fort que la réplique de Bachir ne le mérite. Il rit de pouvoir rire. Il rit de constater que la guerre a reculé dans leur esprit comme les flots à marée basse et que sur la plage qu'elle a découverte, ils peuvent employer le vocabulaire de l'affreux sans céder à la panique. « Déshabille-toi dehors, » dit Yema à son mari. « Tu ne rapportes pas tes habits qui grattent à la maison. » Ils font tous de même et se dévêtent entre les cabanes, révélant sous les vêtements de travail toute la surface de la peau attaquée par le prurite. Lorsque les femmes leur apportent des bassines d'eau et du savon, ils se lavent comme des enfants, en poussant des petits cris joyeux et en se poursuivant pour s'asperger. Pour finir, les femmes les font asseoir au sol, leur brossent les cheveux à grands gestes brusques, et à l'aide de papier collant, elles cherchent à retirer les dernières soies vicieuses. D'autres préfèrent racler doucement la peau avec la lame d'un couteau. La femme de Bachir verse doucement du lait sur les gonflements orangés de la peau. On dirait un salon de beauté improvisé en plein air. Et elle s'amuse des grimaces de leurs hommes incapables de supporter une douleur infime, aspirant l'air et la salive entre leurs dents serrées chaque fois qu'elle décolle d'un coup sec une bande de scotch. À partir de cette embuscade, les processionnaires des pins obligent les hommes à travailler couverts des pieds à la tête, suant comme dans un hammam à l'intérieur de leurs combinaisons, gants, lunettes et chaussettes hautes, et en les voyant partir ainsi harnachés, les petits trouvent qu'ils ressemblent à des cosmonautes sans le sou ou des savants crasseux cherchant à rejoindre de leurs pas maladroits un laboratoire secret. Ali développe à l'égard des chenilles une aversion sans borne qui le pousse à les halluciner sur les murs de la maison, le bord du lit ou parfois dans son assiette. Chaque léger mouvement dans le décor lui tire un sursaut qui fait rire ses enfants. Hamid croit se souvenir que c'est ici, peu de temps après leur installation, qu'ils ont fêté leur premier Aïd el-Kébir depuis le départ d'Algérie. Il conserve des images du camp envahi de moutons bêlants que les hommes et les femmes tirent par une corde en maudissant les animaux rétifs. De peur, les moutons chient partout dans les allées des perles brunes et malodorantes. Une partie non négligeable du salaire d'Ali est allée à l'achat de la bête. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il voulait un mouton plus gras, plus imposant que ceux des voisins. Lorsqu'il est revenu avec la grosse créature bêlante, il souriait comme s'il s'était agi d'un animal sauvage qu'il avait capturé lui-même. Hamid, lui, déteste entendre le mouton se frotter contre le mur de leur maison et donner de petits coups de tête obstinés au pilier qui retient sa corde. Et ce n'est pas comme l'imaginent ses parents, parce qu'il est sensible au sort de la bête. Il est simplement furieux qu'elle ait coûté autant d'argent. Pendant les premières années de France, ses parents se comportent comme s'ils allaient un jour retrouver leur ancien statut. Ils ne parlent plus de rentrer en Algérie, des feintes du général de Gaulle, ni de la puissance militaire française, mais ils rêvent encore de la richesse. De ce qu'ils appellent dans leurs expressions de village, leurs expressions de déjà vieux, la maison pleine. Le garçon les écoute et il lui arrive de croire lui aussi aux beaux jours qui ne manqueront pas de revenir, mais le plus souvent, il en veut à ses parents de donner au dehors des signes d'aisance que lui et sa fratrie auront à payer ensuite. Il se moque de la taille du mouton, il aurait voulu une paire de chaussures neuves. Le jour de l'Aïd, l'odeur du sang monte de derrière chaque maison. La proximité des foyers et le nombre de sacrifices rendent assourdissante la conjonction des bêlements. C'est la première fois que Hamid prend l'Aïd en horreur. Pendant des jours, les plats voyagent d'une maison à l'autre. Hamid refuse d'avaler ne serait-ce qu'une bouchée de viande. Quand ses filles lui demanderont plus tard à quel moment il a cessé de croire en Dieu, il parlera de son adolescence et de Marx avec une certaine emphase. Mais tout en tenant un discours raisonnable, il verra ressurgir quelques images plus anciennes. Le sang, la laine et les trous à ses semelles.
ديك سفن دي حرقة الداوة زيري ورنك سيبي مليان ولا صردي يفلن نتصرف كان دي طمزير ونحس بذك وسان وري اللي وغدي شقان سوى كم ذنكني لا بوامة لا بوامة هذا سنخار مرحبا استيري لا بوهم لا بوهم يا سنة اللات وانت انضمصير نكي كتخشني تراكم ثرني راس
عشنا ولا شزني خور نجيب غصنا روال ميزيريا نسارة ما زكا قذب ورث سن الليل أدن بنتي ثمورة غنى وذكرى نبغى مدوينة كوي نتمني نتسيدر ذي ترقى نومنس الموزيكا دي مديازن مثل اللي لا بوهمة لا بوهمة ما ظفر تلقيت أكيني ذي زي لا بوهمة لا بوهمة وليت وزدا بدل جيبي زوي ثمديت نتصبون تقصر دقمي طرومي وكنا دناوي منسي من الميت ثغلي دورو النزل سبس طرو قدهين تغيبي مين عين نستعفو تخمتات ابني خروبة بس يقبل سكريدي تفرارة ما تثرزو أديث برنان الدو أبريدة تنوي لا بوهمة لا بوهمة بالنوبة النار أسد نفلالي لا بوهمة لا بوهمة ألا غيتشور مضر يرو السام اليفري يمكتادي ظلي غف اسمكني الهان والسال الزيغ سام كانني اندم وقرا ثيري نتزر غدي قرا وفي غيك فا كل شي وردي قيميني هي نسينا مديك يا زمان يفسي وزرار نسني ايخفي وهني تسوم عيني عدا لا بوهمة لا بوهمة ضابو تمديث إيدي دي سمكتا لا بوهمة لا بوهمة كفا تفسو تغليني مزرى
Lecture en liberté, Denis Flageul.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. Quelques mois après son arrivée au logis d'Anne, Yema tombe à nouveau enceinte. Elle a peur, comme la toute première fois, comme si elle avait oublié comment on donne naissance. Elle pense au petit garçon aux yeux noirs qui est enterré là-bas, sur la crête. Elle se demande s'il reste quelqu'un de la famille pour se souvenir de lui. Pour s'asseoir un instant sur sa tombe minuscule dans la stèle de laquelle le croissant couché ouvre un sourire franc. « Tu es bien trop triste, » lui dit une voisine. « Ce n'est pas bon pour l'enfant, tu te laisses aller. » Yema s'excuse silencieusement auprès de celui qui est niché dans son ventre. Elle veut de lui, bien sûr, ce n'est pas la question. Elle est heureuse qu'il existe et qu'il la grandisse déjà, mais elle aimerait ne pas le laisser sortir, le garder toujours à l'intérieur d'elle et le protéger. Tout en lui murmurant des mots tendres, elle l'enjoint à ne pas la quitter trop vite, l'assure qu'elle est prête à le porter des années s'il le souhaite. L'assistante sociale vient la voir pour parler avec elle du futur bébé. « Si spécial, » dit-elle. Parce qu'il naîtra en France. Une femme traduit les paroles de l'assistante, mais même traduite, elle ne ressemble pas à une langue que Yema comprend. Bien sûr, susurre l'assistante. Il faut mettre toutes les chances du côté de ce bébé, faire en sorte qu'il se sente à sa place dans ce pays, et surtout que les autres Français, le reconnaissent comme un des leurs. Moi, je veux bien, dit Yema, mais alors c'est à vous de m'apprendre la technique pour qu'il naisse avec des cheveux lisses. La traductrice lui fait les gros yeux. C'est important, par exemple, reprend l'assistante sociale, de lui donner un prénom qui reflète votre volonté de vous intégrer. Vous avez déjà pensé au prénom ? Omar, dit Yema. Ou Leïla. Ce sont les noms des premiers-nés de Jamel et Hamza, ceux qui sont restés là-bas. Yema pense qu'en reprenant leur nom, c'est un peu comme si elle les faisait revenir jusqu'à eux, comme si elle reconstituait coûte que coûte la famille. « Et pourquoi pas Mireille ?» demande l'assistante en faisant semblant de ne pas avoir entendu. « Ou Guy ?» « Parce qu'on ne cache pas le soleil avec un tamis, » répond Yema. Cette fois, la traductrice glousse. Pourtant, au soir, Ali donne raison à l'assistante sociale. « Elle sait mieux que nous, » dit-il avec résignation de celui qui ne comprend plus rien. L'enfant s'appellera Claude. Et quand Naïma s'essaiera plus tard à faire la liste de ses oncles et tantes, elle aura l'impression de jouer à chercher l'intrus, comme dans ses cahiers de vacances. Hamid, Kader, Dalila, Claude, Hassen, Karima, Mohamed, Fatia, Salim. Une drôle de vie se forme ici pour la famille d'Ali et pour les centaines d'autres habitants du logis d'Anne. Une vie agréable au printemps et au premier temps de l'automne, une fournaise l'été, un long tremblement l'hiver. Une vie cachée par les pins. À part le bureau d'embauche, commente un homme dans une vidéo d'archives tournée 10 ans plus tard, je ne sais pas qui sait qu'on existe. Ils restent entre eux. Et à la fin de la journée de travail, les hommes se retrouvent pour jouer aux dominos devant une des maisons. On sort les tables, on apporte des chaises, des tabourets, les plus jeunes s'assoient sur les marches du perron. Dans l'air du soir, au moment où les odeurs de résine et de nourriture se mêlent, on entend les claquements secs des dominos, les comptes de points faits à la vitesse des salles de bourse, à la criée, les rires des hommes qui se moquent du malchanceux ou du maladroit, les exclamations de colère des mauvais perdants et les aboiements des chiens qui tournent autour de la table en espérant qu'on leur lance un peu de nourriture, perturbés par ces rectangles blancs et noirs qui ne sentent rien mais qui réclament tant d'attention. Parfois, l'un des hommes annonce qu'il a invité des villageois ou le chef d'équipe et que cette fois, ils vont venir. On leur laisse des chaises libres. Mais on ne les attend pas pour commencer à jouer. Tout le monde sait que personne ne vient. C'est comme si les autres avaient oublié le chemin qui mène ici. Au moment des élections, pourtant, on paraît se souvenir d'eux. Les politiques locaux affrètent des bus pour qu'ils puissent aller voter. Maires, députés, sénateurs, ils viennent serrer des mains dans le camp et promettre. Si les habitants du logis d'Anne pouvaient se nourrir de promesses, ils auraient tous le visage de lune qu'arborait Ali au temps du conte de fées. Lors de ces visites, les élus et leurs assistants les remercient toujours avec les mêmes mots, de leur amour sans faille pour la France. Et personne ne leur répond rien, sinon un sourire pâle. C'est une chose étrange. Pour avoir le droit d'exister, il faut qu'ils se présentent comme des patriotes de la première heure, des amoureux du drapeau tricolore qui n'ont jamais douté. Dans ce camp, pourtant, il y a quelques hommes qui ont d'abord travaillé avec le FLN, qui ont guetté, qui ont collecté. Certains ont gagné pour lui des batailles dans la montagne. Il y a même un ancien commissaire politique. Avec une tendresse étonnée, on le surnomme Mao. Mais ici, après la fuite, ils n'osent plus le dire parce qu'on les a accueillis en leur racontant que c'était justement au nom de leur amour sans faille pour la France qu'ils avaient eu droit à un logement, à un emploi. Leur présence ici semble toujours si fragile, si suspendue au bon vouloir des autres, qu'ils s'imaginent peut-être qu'on les remettra sur les bateaux s'ils avouent que non, la France, vous savez, pas forcément plus que ça. Ils taisent leur histoire individuelle et ses complexités. Ils acceptent en hochant la tête une version simplifiée qui finit par entrer en eux, par recouvrir la mémoire. Et quand leurs enfants voudront creuser en dessous, ils découvriront que tout a pourri sous la bâche de l'amour sans faille et que les vieux disent qu'ils ne se souviennent plus. Parfois, Ali ne supporte plus le camp ni la forêt et il marche le long de la départementale pendant une heure ou deux à la recherche d'autre chose. Le plus souvent, quand il arrive dans la bourgade voisine, il ne fait rien d'autre que s'asseoir sur la margelle de la fontaine et regarder les passants. De temps à autre, il entre au bureau de tabac et achète un paquet de gitanes. En Algérie, le gouvernement s'apprête à nationaliser l'ensemble des biens, droits et obligations des manufactures et entreprises de tabac et allumettes, ou bien des biscuits pour les petits à l'épicerie. Le décret du 22 mai 1964 nationalisera ensuite les meuleries, semouleries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous. Chaque échange, même bref, avec un commerçant, lui procure un soulagement intense. Il n'est pas invisible. Au camp, il lui arrive d'en douter. Il fait souvent le même rêve. Un des enfants est malade et doit être amené à l'hôpital en urgence. Ali descend alors sur la route et cherche à arrêter une voiture. Au milieu du ruban de goudron, il agite ses grands bras en direction des véhicules qui foncent vers lui, mais aucun ne ralentit. Il traverse son corps de fumée sans remarquer sa présence. Hamid le sait, parce qu'il a entendu au milieu de la nuit Ali chuchoter son cauchemar à Yema dans le noir de cette chambre exiguë qu'ils partagent tous. Quant à l'histoire qui suit, il la connaît, parce qu'elle est une des rares que son père ait racontée après leur départ de Jouk aux nouveaux voisins qui l'interrogeaient sur le hameau. Elle est aussi, par conséquent, une des seules qu'il ait lui-même partagé avec ses filles, et que Naïma racontera à son tour, sans jamais l'avoir entendue de la bouche de son grand-père, sans être certaine que son grand-père l'ait réellement vécu. Début juillet 63. Ali entre dans un bar et s'assied au comptoir. C'est la première fois qu'il vient et cet établissement est plutôt sale, même la lumière paraît poisseuse, mais cette crasse sombre lui fait du bien après l'aveuglant soleil du dehors qui lui a cassé la tête tout le temps qu'a duré la marche. Une bière, dit-il au patron. C'est ce que lui pense dire. Du moins, mais aux oreilles du patron, ça sonne comme une bière. Et ça l'irrite. La blessure faite au mot lui déplaît, comme si elle s'accomplissait à même son oreille, en charcutant les conduits. Il hausse nerveusement les épaules et ne répond pas. Quand Ali racontera ensuite cette histoire, il dira que l'homme avait décidé de ne pas le servir dès qu'il l'a vu passer la porte. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Le cafetier lutte contre la colère qui l'envahit. Il voudrait pouvoir la contrôler ou même ne pas la ressentir du tout. « Une bière !» répète Ali sans hausser la voix. Ses yeux déjà peinés achèvent de mettre hors de lui le tenancier. Des yeux de victime qui l'obligent à devenir bourreau avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, le privent de sa liberté d'agir. Des yeux qui ont l'air d'avoir accumulé toute la souffrance du monde. Et puis ces putains de médailles sur sa poitrine, il n'arrive pas à y croire. Le type a mis sa parure d'ancien combattant. C'est sa défense contre les Français, son mot d'excuse rédigé par la mère République. « Je serre pas les crouilles », La phrase s'échappe entre ses dents. Jusqu'à la dernière seconde, il ne savait pas qu'il allait la dire, mais maintenant qu'elle est sortie, il ne peut plus la rattraper. Alors au contraire, il s'entête, il la répète plus fort. Tu m'as compris, je serre pas les crouilles. Au village, Ali l'aurait frappé et on lui aurait donné raison. Ici, il sent ses deux maîtres qui se recroquevillent sur le tabouret. Sa force qui se dérobe, le sang qui se change en eau et les jambes comme des collants de nylon sur un fil à linge qui ne sont plus qu'une vague forme de jambes inutiles et grotesques. Très bien, murmure-t-il, pas de bière, je vais juste me reposer un peu.
Tu es demeuré ou quoi? Tu sors tout de suite.
Non, non, dit Ali tout doucement. Je ne sors pas.
J'y sors pas, hurle l'autre derrière le comptoir, son visage devenu rouge brique. Mais tu t'es cru où? Tu t'es cru chez toi? Sale bougnoule, j'appelle la police.
Alors qu'il fait les quelques pas qui le séparent du téléphone, il prie intérieurement pour que Ali soit raisonnable et qu'il sorte, ou au moins qu'il esquisse un geste vers la sortie. Il ne veut pas avoir à décrocher le téléphone. Il ne veut pas avoir à justifier sa fureur à une tierce personne. C'est déjà assez difficile de se persuader lui-même qu'il a raison. Mais Ali ne bouge pas.
Voilà, nous avons terminé donc pour ce soir et pour cette dernière lecture, donc le roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, et je vous invite à continuer et terminer vous-même la lecture de ce roman. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon, et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.